Salut à toi l'Occitan et bienvenue dans les Mystères d'Occitanie. Aujourd'hui, je t'emmène dans le Lot sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Précisément, on va dans la chapelle Notre-Dame de Rocamadour, car elle recèle d'une intrigante statuette qui fait beaucoup parler d'elle, une Vierge noire. C'est une statue de la Vierge, mais elle a la particularité d'avoir la peau noire. Mais alors pourquoi et qu'est-ce que ça signifie? Serait-ce une figure satanique héritée des anciens cultes païens? On y répond tout de suite dans les Mystères d'Occitanie. Il existe à peu près 1000 vierges noires en Europe, dont 200 sur le sol français. Elles sont présentes en particulier dans le bassin méditerranéen, puisqu'on en recense 180 rien que dans le sud de la France. La plupart d'entre elles sont des sculptures qui ont été produites entre le XIe et le XVe siècle, mais parfois ce sont aussi des icônes de style byzantin, des tableaux. En Occitanie, on trouve notamment une Vierge noire à Toulouse et une autre, plus fameuse encore, à Rocamadour. Et si elle est fameuse, c'est parce que, selon la légende, on lui attribue quelques miracles. On raconte par exemple qu'une femme est venue la prier 3 fois pour lui demander de l'aider à avoir un enfant et que quelque temps plus tard, elle s'est retrouvée enceinte de triplés.
Oh, non, elle a eu des triplés parce qu'elle a prié 3 fois ? Oh. Mais heureusement qu'elle est parvenue 10 fois.
Ah bah ouais, hein. Là, c'est comme la commande en un clic d'Amazon. Hein. Ça marche super bien, mais il faut cliquer qu'une seule fois. Hein. Sinon, tu reçois tout en double. En tout cas, elle en a accompli des miracles, la Vierge de Rocamadour. D'ailleurs, à l'entrée de la chapelle, il y a un livre d'or où les gens racontent les miracles qu'elle a réalisés pour eux. Et franchement, c'est vertigineux. Rocamadour, c'est un lieu de pèlerinage depuis l'an 1166. Alors, ça en fait un nombre de commandes livrées.
Oh, waouh, ça fait 1000 ans, quoi. Mais comment ça a commencé, cette histoire ?
Eh bien écoute, Rocamadour, il tire son nom et sa célébrité d'un légendaire ermite, Saint Amadour. C'est lui qui aurait sculpté la Vierge Noire. On raconte qu'Amadour était un pseudonyme et qu'en réalité, il aurait été Zachée, un personnage biblique converti par Jésus-Christ lui-même. Il aurait débarqué en Gaule avec Lazare, Marthe et Joseph d'Arimathie. Tu sais, lors de leur exil jusqu'aux terres d'Occitanie.
Ah oui, alors tu veux dire qu'il était dans la fameuse barque qui transportait les Maries après la mort de Jésus et qu'il est arrivé avec elle au Sainte-Marie de la Mer.
Bah voilà, okay. Absolument.
Ah ouais, ok. Mais ils étaient combien sur cette barque-là? Parce que il commence à ressembler à l'Arche de Noé, là, ton bateau.
Ouais. Ou à un bateau de migrants.
Non, mais t'imagines ça, à notre époque? Ils auraient parqué tous les héros de la Bible à Dunkerque? Oh, l'angoisse. Non, mais ça aurait fait mauvais genre, ça, quand même.
Ouais. Enfin, même si les migrants ne sont pas des héros de la Bible, ça fait déjà mauvais genre.
Ouais, c'est pas faux.
Bon, enfin, quoi qu'il en soit, depuis 1000 ans, les gens viennent prier cette statuette-là en particulier, parce qu'elle est magique. Et le fait qu'elle ait la peau noire, ça veut pas rien dire.
Oui, c'est bizarre ça. Mais ça veut dire quoi? Oh non, mais t'imagines, ce serait fou d'apprendre que Marie était noire.
C'est l'hypothèse que certains font.
Ah bon? Mais si c'était le cas, Jésus aussi, il serait noir.
Ah mais certains disent que Jésus était noir.
Ah bon? Mais qu'est-ce qu'il en est?
On sait pas, on n'a jamais retrouvé leur corps à tous ces gens. Et puis franchement, dans l'absolu, on s'en fout, non? Tu sais, en ce qui concerne les religions, ce qu'il faut entendre, c'est les symboles. La peau noire des vierges noires, selon certains exégètes chrétiens...
Les exé-quoi? Les exégètes?
Non, les exégètes. Les spécialistes, quoi. Donc, la couleur noire des vierges. Pour certains spécialistes, ça symboliserait le fait que Marie s'est tenue en face de Dieu et que sa peau s'est obscurcie face à tant de lumière.
Quoi? Genre elle aurait bronzé?
Non, pas exactement. Bon, en fait, c'est plutôt l'idée que de se tenir devant Dieu, ça révèle la noirceur de nos péchés. Du moins, c'est l'idée qui est suggérée dans le Cantique des Cantiques, un classique de la liturgie chrétienne. Il est dit que le dévot ou la dévote, en s'approchant intérieurement de la lumière brillante de Dieu, en viendrait à se considérer lui-même comme noirci.
Ah bon? Mais c'est pas un peu raciste comme explication, ça, pour le coup?
Écoute, après, c'est pas la seule explication. Il y en a qui disent que ces statues, en fait, elles rendraient hommage à Sarah la Noire, la sainte patronne des Gitans et des Roms. Elle aussi, elle aurait été à bord du bateau. Et selon la tradition chrétienne, elle viendrait de la Haute Égypte. On la connaît aussi d'ailleurs sous le nom de Sarah et Kali.
Ah, Kali, comme le chanteur.
Non, Kali comme la déesse hindoue.
Ah.
Oui, parce que les Roms, en fait, ils viendraient d'Inde. C'est les Romanichels. Ils seraient arrivés dans le bassin méditerranéen aux alentours du XIe siècle. Alors, il est possible que leur grande patronne, Sainte Sarah, ait été un peu inspirée de la déesse Kali. En fait, Kali, elle a justement un visage noir en plus. Et puis, de la même manière que Kali est immergée dans l'eau lors des célébrations en Inde, Sarah la Noire, elle aussi, elle est plongée dans l'eau lors des fêtes rituelles des Roms.
Ah ouais. Donc, tu veux dire que dans nos bonnes églises françaises, là, si chères à Éric Zemmour, on voue un culte à une déesse Romanichel ?
Bah oui.
Et puis, attends, si je récapitule, en fait, Jésus, il serait noir et toute sa famille, ce serait des migrants. Ok. Je t'adore, Lilios. Mais alors là, tu vas te faire assassiner. Mais t'inquiète pas. Si ça t'arrive, on trouvera un moyen de te rendre hommage avec la Vierge Noire.
Oh mais, tu sais, tout ça, ça reste des hypothèses. En vérité, il y a surtout des symboles dont il faut comprendre la signification. Comme je l'ai expliqué dans les chroniques précédentes, le Christ, par exemple, c'est un archétype, un personnage avant d'avoir été un homme réel. D'ailleurs, ce personnage, il existe un peu partout dans le monde, dans plein de récits mythiques, à travers d'autres noms, comme Krishna, par exemple, chez les hindous. Or, précisément, le noir, c'est la couleur de Krishna. En fait, le noir, il symbolise le mystère, l'occulte, tu vois, ce qui est caché. Les personnages à la peau noire, en fait, ils auraient accès à la connaissance absolue, à la révélation de l'invisible.
Donc en fait, paradoxalement, plus on est illuminé, plus on devient sombre.
Non. Enfin, c'est un symbole, quoi. Bon. Tiens, d'ailleurs, en ce qui concerne le sens caché des symboles, est-ce que tu sais que dans notre région d'Oc, le préfixe Oc représente le soleil et la lune ? Oui, la forme des lettres figure le cercle, donc le disque solaire, et le croissant lunaire. D'ailleurs, on retrouve ce préfixe dans le mot « occulte ». Ce qui serait jugé occulte renverrait en fait à un culte du soleil et de la lune.
Ah bon ? Mais l'occulte, c'est pas un peu sataniste plutôt ?
Sataniste ? Bon, en fait, si tu regardes bien, la Vierge Marie, c'est une réécriture de la déesse mère, souvent elle-même associée à la lune. Mais c'est aussi elle qui donne naissance au Christ, l'être solaire. Donc l'image de la Vierge à l'enfant, c'est une représentation qui renvoie à la jonction entre la lune et le soleil. Donc derrière l'imagerie chrétienne, il y a quand même un gros héritage païen.
Ah bon ?
Oui. Et puis ça rappelle vachement la Vierge Isis et son fils, le Christorus, tu sais, chez les Égyptiens. D'ailleurs, pour certains analystes, les Vierges Noires seraient en réalité une évocation claire des cultes de l'Ancienne Égypte. Mais bon, c'est logique, puisque Marie, c'est qu'une réécriture d'Isis.
Quoi ? Comment ça, Marie, c'est une réécriture d'Isis ?
Dans les années 70, le chercheur Stephen Benko, il a remarqué la ressemblance entre la Vierge à l'enfant et les représentations d'Isis qui portaient Horus. Pour lui, la Vierge Noire, c'est l'ancienne déesse Terre-Mère qui a été convertie au christianisme. D'ailleurs, à l'époque, l'Égypte s'appelait Kemet. Or, en égyptien, Kemet signifie « la terre noire », en référence à la couleur de la terre qui bordait les rives du Nil. Et puis, symboliquement, il faut dire que le sol le plus fertile est noir, et que même plus il est noir, plus il convient pour l'agriculture. Donc, la couleur noire des Vierges Noires sera une façon d'évoquer la fertilité de ces déesses. Et ces déesses, précisément, c'est des déesses de la fertilité agricole, des déesses de la terre.
Ah ouais ? Mais pourquoi le parti des Verts, alors, on l'appelle pas le parti des Noirs ?
Je sais pas. Peut-être que ça ferait un peu bizarre, non ?
T'as raison.
Voilà. Donc, le maître de l'alchimie Fulcanelli, avant que le christianisme s'installe en Gaule, il dit qu'on aurait importé un certain nombre de statues d'Isis à l'enfant. Elles auraient été cachées en fait dans les chambres souterraines des temples, et avec l'introduction du christianisme, ces vierges noires auraient été associées à la Vierge Marie. Mais leur symbolisme, il reste le même. Et en latin, c'est la Virgo Paritura, c'est-à-dire la terre avant sa fécondation que les rayons du soleil vont bientôt animer.
Ok. Donc ça n'a rien de sataniste tout ça alors?
Oh mais... Écoute, tout dépend de ce que t'appelles Satan. Hein. Parce que, juste, hein, je te fais une petite parenthèse. Hein. Le mot Satan, il rappelle vachement le mot Satanama. Or, Satana et Ma, bah, c'est les quatre sons primordiaux de l'ancien sanskrit, qui est l'un des plus vieux langages connus. Hein. Sa, ça signifie infinité. Ta, ça veut dire vie. Na, c'est la mort, et ma, la renaissance. Donc, Satanama, ça envoie au cycle infini de la vie, de la mort et de la résurrection. Et puis, en sanskrit, hein, toutes les variations du mot Satan veulent dire vérité.
Mais qu'est-ce que tu racontes ? La Bible, elle dit que la vérité, c'est Dieu.
Oui, en effet. Hein. Mais je te rappelle aussi que le Christ Jésus est appelé Lucifer hein, plusieurs fois dans la Bible. Hein. Et comme je l'ai expliqué la dernière fois, bah, Lucifer, c'est aussi le nom que les Romains donnaient à Vénus hein, jusqu'au IVe siècle. Donc, ça ne sera pas la première fois qu'on diabolise la déesse mère, hein, n'est-ce pas ?
Oui. Oui, mais bon, je ne vois pas le rapport entre la déesse mère et Satan.
Bah, Satanama, c'est aussi des mantras sacrés que les yogis utilisent dans la méditation de la Kundalini. Tu te souviens, la Kundalini ? On en a parlé la dernière fois. Hein. C'est l'énergie vitale qui circule dans ton corps, comme un gros serpent qui sinue entre tes chakras. C'est l'énergie vitale qui est en chacun, mais aussi l'énergie sexuelle et créatrice. Et c'est pour ça que la Vierge Marie, elle terrasse le serpent. Les déesses de la fécondité, elles maîtrisent le serpent, tu vois ? L'énergie vitale, en fait, qui va servir à créer la vie, tout simplement. Et en fait, c'est les Juifs et les chrétiens qui ont associé le serpent au diable et d'une certaine façon, qui ont assimilé la grande déesse terre-mère à Satan.
Oh là 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 là, tu me fais flipper Lily là. Plus je t'écoute, plus ça me fait peur en fait. Je veux dire, tu serais pas en train de faire la promo de Satan là ?
Ah mais le diable, c'est celui qui accuse, hein. C'est l'accusateur, hein, comme le dit la Bible. Hein. Du coup, là, ton accusation, elle est un peu diabolique, hein, si tu y réfléchis bien.
Quoi ? Mais, oh, ah, ça m'énerve ça. Bon, tu sais quoi, je préfère quand tu chantes, Lily.
Ok, bon bah, alors je te propose qu'on écoute ma chanson La Politique.
Voilà.
Ouais, c'est une sorte de plaidoyer contre l'hypocrisie.
Super.
Tu sais, la politique qu'on fait quand on met un masque et qu'on fait semblant, là. Ou qu'on dit que des choses consensuelles pour pas déplaire.
Oui, bah voilà, c'est bon, on a compris.
On se dit amis, on se tape la bise. On se colle chéri comme dans le showbiz. Bien poli et policé, on se résigne, on est coincé. Costume de pingouin, on se renifle. La
Ami Occitan, maintenant que tu connais le mystère des Vierges Noires, je voudrais qu'on aille un peu plus loin en faisant un petit détour vers l'alchimie et la psychanalyste jungienne.
Quoi ? Ah non mais Lily, faut que t'arrêtes là, on n'est pas sur Arte.
Mais ça va, hein, on n'est pas non plus chez Hanouna. Hein. Bon, déjà, ce que je peux te dire, c'est que la peau sombre des Vierges Noires, elle renvoie aussi à l'alchimie.
L'alchimie. J'imagine que tu parles pas de l'alchimie qu'il y existe entre nos corps.
L'alchimie, c'est une philosophie et une pratique qui consiste à changer le plomb en or. Mais dans l'idée, le plomb, c'est l'homme. Une matière vile et sans grande valeur. Et l'alchimie, elle consiste à transformer l'homme en profondeur, de manière à ce qu'il devienne aussi précieux que de l'or. En fait, il s'agit de réaliser un certain nombre de métamorphoses intérieures jusqu'à faire jaillir son corps de lumière. L'âme de l'homme se transforme en or, c'est l'âme or.
La mort ?
Non, l'âme or, l'âme our, l'amour. Comme tu le sais, en plus, l'âme est immortelle. Hein. Enfin, du moins lorsqu'elle a su se transmuter en pure lumière, hein, comme on te l'explique dans l'alchimie. Et puis d'ailleurs, c'est précisément ce que font les Christ. Ils se créent eux-mêmes et ils atteignent l'immortalité. Or, pour les alchimistes, il faut faire 3 métamorphoses successives afin de réaliser ce grand œuvre. Et la première, c'est l'œuvre au noir ou l'expérience du noircissement.
Oh, comme la Vierge qui rencontre Dieu et qui noircit.
Y a de ça, ouais. En fait, l'œuvre noire, c'est la phase de la calcination, mais aussi celle de la putréfaction et de la décomposition. C'est l'étape pendant laquelle tout ce qui est grossier en l'homme doit mourir et être décomposé avant d'être nettoyé dans la phase suivante. En gros, tu observes tout ce qui dysfonctionne en toi, tu laisses tout bien pourrir et ça se décompose et après, tu passes le karcher.
Le karcher. Mais comment ça, faut laisser les choses pourrir ?
Oui, une fois que les choses ont bien pourri, elles se désagrègent. Et après, c'est plus facile à nettoyer. En fait, cette étape de l'œuvre noire, c'est le moment où tu te retrouves à affronter tes ombres.
Mes ombres ?
Oui, toute lumière produit une ombre. Hein. Alors c'est sûr, c'est pas super plaisant comme étape. Hein. Au contraire même, c'est le moment le plus sombre, le temps du désespoir, de la désillusion. On parle d'ailleurs de la nuit noire de l'âme parce que la prise de conscience douloureuse et croissante de nos ombres s'accompagne généralement d'une mélancolie extrême, d'une forme de dépression. Mais bon, pour Jung, c'est une condition nécessaire et préalable au développement personnel. La confrontation avec l'ombre génère d'abord une sorte de stase, un recul qui ralentit l'action. Mais ensuite, cette descente toujours plus profonde dans l'inconscient, elle se transforme en une illumination venue d'en haut.
Ok. Alors tu veux dire que pour atteindre les cieux, il faut plonger au fond de soi ?
Exactement. Pour monter, il faut descendre. Et pour devenir pur, il faut se laisser pourrir. Et tu sais ce qu'il y a au bout de tout ça ?
Non.
Il y a l'abolition de tous les conflits intérieurs, l'unification de toutes les forces contraires. Et c'est pour ça justement que depuis des millénaires, on voue un culte à la fusion du soleil et de la lune, comme à Marie et Jésus. La lune, c'est le féminin, l'invisible, la nuit, l'inconscient. Le soleil, c'est le masculin, le visible, le jour, le conscient. Et lorsque ces deux polarités fusionnent en toi-même, tu peux retrouver ton unité intérieure, ta complétude. Et tu vois, c'est ça le but de l'alchimie, justement. Mais c'est aussi l'aboutissement de toute quête spirituelle.
Oh, waouh. Ok, j'ai du boulot, là.
Surtout que si tu fais la paix à l'intérieur de toi, tu verras que ça a des effets à l'extérieur. Si chacun se guérissait lui-même, si chacun faisait la paix intérieure, alors le monde, il irait mieux. Pense-y la prochaine fois que tu observes un truc pourri à l'intérieur de toi. Plutôt que de te juger, juste observe et laisse tout ça se décomposer. Car n'oublie pas, le compost, c'est un formidable terreau pour faire pousser la belle plante que tu es. Allez, Adysias, l'ami occitan.